Pauline Pucciano, La cité hantée, Chapitre 3, Le corps de la ville. 3 ans, 1000 jours, 1000 levées de soleil au dehors et pas un rayon au dedans. Joris s'appliquait à ne pas penser à la lumière. Ils étaient la guilde de l'ombre, et dans l'ombre, ils se tairaient. Ces 3 années n'avaient pas vu beaucoup de changements. L'enfant, certes, avait grandi et forci. Joris s'appliquait, avec une ingéniosité qui le surprenait lui-même, à trouver des moyens pour développer son corps et engourdir son esprit. Le silence était son meilleur allié. L'enfant n'avait jamais entendu le son d'une voix humaine depuis sa naissance. Joris communiquait avec lui par gestes. Cela semblait suffire aux tâches quotidiennes. Puis il avait inventé des systèmes complexes de musculation, adaptés à un bébé. Il accrochait à ses membres des sacs de sable, de plus en plus lourds, puis le faisait ramper, marcher ou simplement déplacer ses bras. Il l'habituait à des températures plus que fraîches, le souterrain était perpétuellement à 12 degrés, notamment en le lâchant au milieu de la rivière souterraine. Depuis qu'il avait 2 ans et qu'il comprenait mieux ce qu'on lui demandait, il le faisait grimper aussi, casser des roches avec une masse, sauter de plus en plus haut. Cela occupait une grande partie de sa journée, il ne déléguait cette tâche à personne. Les frères sombres s'étaient repliés dans leur grotte, aussi maussades et silencieux qu'ils l'avaient toujours été. Joris maintenait l'illusion d'un entraînement, avec des exercices physiques et une méditation poussée plusieurs heures par jour. Une fois les quartiers creusés, étayés, aménagés, les canalisations fabriquées et installées, il avait fallu organiser la survie. La vie souterraine ne pouvait se passer d'un ravitaillement de l'extérieur, et il fallait que des frères sombres sortissent régulièrement pour chasser, pêcher, cueillir et bientôt cultiver. Il fallait du grain pour l'hiver, et malgré les périodes de jeûne obligatoires, que même l'enfant observait, des installations permanentes dans la forêt furent bientôt indispensables. Ces sorties vers l'extérieur, si prisées par les frères sombres, Joris les agitait comme des récompenses ou des punitions. Ceux qui se laissaient aller ne sortaient pas. Seuls les plus disciplinés gagnaient ce privilège. C'est ainsi qu'il parvint à garder intacte la communauté, sans tuer plus de 4 ou 5 frères en 3 ans. Mais lui, Joris, montrait l'exemple et ne sortait pas, pas plus que l'enfant. Joris se demandait tout de même s'il ne faudrait pas l'habituer à la lumière du jour et aux éléments extérieurs, mais il remettait cela à plus tard. Il fallait tout d'abord l'endurcir, l'habituer aux ténèbres et au silence. C'était dans la cathédrale que Joris passait les heures qui lui restaient. Il avait interdit l'accès de ce sanctuaire à quiconque et gardait pour lui cette salle souterraine immense, si haute de plafond que ses hauteurs se perdaient dans l'ombre, à peine léchée par les lueurs tremblotantes des torches qu'il accrochait aux parois du bas. Parfois, Joris projetait la lumière de sa pierre frontale dans ses sinuosités minérales aux splendeurs silencieuses, colonnes géantes, arches inaccessibles ouvrant d'improbables couloirs aériens, cierges tumescents jaillis du sol, larmes de pierre figées dans leurs coulures, draperies écarlates, disques verdâtres, et çà et là, dans une vasque d'une transparence céleste, dans la froide pureté du cristal, des eaux immobiles, laquées, dont les reflets ne s'agitaient qu'à la lumière. C'était la paix de l'ombre et de l'immobilité. Joris avait d'abord longuement cherché sa place dans cet ordre glacé. Une colonne, presque au centre de la voûte principale, à laquelle son dos s'adaptait parfaitement, avait fini par l'attirer. Il s'était assis là, adossé à la colonne, la tête reposant très légèrement inclinée contre la pierre lisse et froide, en position de méditation. Et il avait appris à faire corps avec la colonne, d'abord par sa forme, sa verticalité, puis par son immobilité apparente, qui cachait un mouvement intérieur imperceptible et entêté, puis par son appartenance à la structure d'ensemble de la grotte et de la montagne, et enfin par sa position souterraine par rapport à la cité. C'était là le plus difficile, d'arriver à relier par la méditation ce monde minéral à celui des hommes, mais il était ce vecteur, à la fois homme et minéral, dont l'histoire personnelle se ramifiait dans le monde humain, mais dont la conscience entraînée, épurée, presque inhumaine, parvenait à se fondre dans la matière inerte. Joris n'avait pas cherché activement à faire corps avec la ville, du moins il ne se l'était pas formulé ainsi, et n'avait pas consciemment envisagé qu'en faisant corps avec la cité, il deviendrait alors l'un des membres multiples de son maître, dont l'esprit hantait à présent Albâtre. Il avait suivi ce cheminement comme une sorte d'exercice mental qui s'imposait à lui. Il n'avait pas eu de contact avec Sornar depuis plus d'un an, lorsque les premiers frémissements de son esprit, reconnaissables entre tous, vinrent troubler la paix de l'ombre pendant l'une de ses méditations. Le contact fut si étranger, si terrifiant, que Joris sortit immédiatement de son état de transe et se retrouva gisant sur le sol de la cathédrale, mouillé de sueur malgré le froid perpétuel et le cœur battant à tout rompre dans le silence étouffant. Ce contact mental, à peine établi, mais d'une puissance et d'une altérité inouïe, Joris n'eut de cesse de le retrouver. La méditation devenait de plus en plus difficile, car Joris avait du mal à vaincre sa propre peur instinctive de l'être qui rentrait dans son âme. Était-ce un dieu? Quelle quantité impénétrable est venue d'ailleurs? Joris mit du temps, plusieurs semaines peut-être, à reconnaître l'empreinte mentale de son ancien maître et à l'accepter sous sa nouvelle forme qui n'avait plus rien d'humain. La peur s'étant calmée à cette pensée, et la curiosité l'emportant sur elle, Joris parvint à se maîtriser suffisamment pour ne pas couper court au contact de l'esprit qui cherchait à toucher le sien. L'âme d'Albâtre, mon sang les rivières, mes doigts les arbres, mon cœur le climat, ma colère le vent, mon épine dorsale les rues, mes os les pavés, mes mains les portes, Albâtre immense, infini, sensation puissante, dissolution. Le monologue intérieur de l'esprit pouvait durer des heures, et les mêmes thèmes revenaient, sans plus d'ordre et de logique. Joris ne pouvait se résoudre à prendre la parole. L'esprit était immense, d'une puissance incommensurable à l'échelle humaine. La part humaine en lui était presque réduite à néant. Joris doutait qu'il eût encore des projets humains, un caractère humain, et même qu'il fût capable d'agir selon l'acception humaine de ce terme. Sornar était en train de disparaître dans ses sensations illimitées, et son immortalité risquait de devenir une éternelle démence. Joris écouta, plusieurs séances durant, ce monologue décousu, avant de prendre une décision. Constriction du gel dans mes os, caresse du soleil dans mes feuillages, industrie humaine dans mon Albâtre, qui creuse, qui martèle, qui assemble, un nouveau membre, des bâtiments, mes yeux les fenêtres, activité des hommes, activité du vent, dégel détente dans mes ruisseaux, soupir de la nuit. Joris prit une profonde inspiration et se concentra sur sa prière. Maître, une goutte d'eau à contre-courant, le fleuve charrie et charrie encore. Maître, maître Sornar, le vent arrêté, les eaux ralenties. Concentrez-vous, maître, sur vos souvenirs humains. Vie avant la naissance, néant, pas de corps, pas de rivière, pas d'arbre, pas de climat. Une conscience, maître, une raison. Sous la terre, grotte, colonne. Oui, maître, je suis là. Frère, obéissance. Je vous ai obéi, maître. Grotte, cavité, poumon de la ville, souffle froid, eau fraîche immobile, source jaillissante, montagne. La conscience du maître Sornar, ou ce qu'il en restait, s'était pour cette fois détournée de lui. Mais Joris s'éveilla de sa transe, rempli d'une joie profonde. L'espoir s'était mué en certitude. Il ramènerait Sornar vers son humanité menacée. Il accomplirait son dessein, il aiderait à entrer dans son nouveau corps. Il lui semblait que la longue période douloureuse où il était livré à lui-même, à l'aveugle, s'était achevée, et toutes ses forces morales lui revinrent. Il lui avait semblé quelquefois que cette confrérie sans chef, que cette vie souterraine, cet enfant sauvage, n'avait pas de sens, mais le sens était revenu, comme une lumière subtile, inondant toute chose.